Bonsoir. La mobilisation générale pour l'Amazonie face aux incendies qui ravagent le poumon de la planète. Des citoyens se sont rassemblés devant les ambassades du Brésil dans de nombreux pays. Le président Macron accuse son homologue Bolsonaro de ne pas tenir ses engagements sur le climat. Il annonce que la France s'oppose en l'état au traité Mercosur. Il demande, soutenu par Angela Merkel et Boris Johnson, que l'Amazonie soit inclue à l'ordre du jour du G7. Un sommet du G7 qui s'ouvre demain à Biarritz et dont vous nous parlez dans le téléphone sonne juste après ce journal, Éric Delvaux.
Oui, avec trois principaux dossiers du week-end, le numérique, sa fiscalité, son volet sécuritaire, les inégalités de revenus dans le monde et puis aussi l'avenir menacé des océans sur ces trois chapitres. Posez vos questions, c'est au 01 45 24 7000.
Dans ce journal également, une solution pour les migrants de l'Ocean Viking. Après 10 jours en mer, ils seront accueillis à Malte avant d'être transférés dans plusieurs pays, dont la France. L'attaque étonnante d'une bijouterie ce matin à Paris. Deux voitures de luxe abandonnées par les malfaiteurs pour 50 000 euros de bijoux. The Cure, le retour, c'est l'événement ce soir au Festival Rock en Seine. The Cure, qui fête ses 40 ans de carrière au domaine de Saint-Cloud. Un concert unique retransmis demain soir sur France Inter. Et puis la météo, du soleil et de la chaleur demain, quelques averses possibles encore dans le sud-est.
France Inter.
La maison brûle, mais on ne veut plus regarder ailleurs. Face aux incendies qui ravagent la forêt d'Amazonie, les voix s'élèvent de plus en plus nombreuses dans le monde pour dénoncer l'attitude du président brésilien Bolsonaro, que beaucoup présentent comme le principal responsable de cette situation. On va y revenir, sachant que l'Amazonie, c'est le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène et que jamais elle n'avait été aussi menacée. C'est ce que sont venus dire devant l'ambassade du Brésil à Paris dans un rassemblement improvisé que 400 manifestants.
On se sent impuissant, oui, on est en colère, on est triste de voir que la planète, elle brûle, elle se détruit sous nos yeux et on peut rien y faire en fait. On veut interpeller les politiques de France, d'Angleterre, etc. Et Monsieur Bolsonaro au Brésil qui ne réagit pas face à la crise climatique et environnementale qui se passe dans son pays. Ça fait 16 jours aujourd'hui que l'Amazonie brûle et personne n'en parle et c'est vraiment pas normal. On a peur parce que dans 50 ans, qu'est-ce qui restera ? Est-ce qu'on doit faire des enfants ? Est-ce que nos enfants, ils auront un futur correct ? On ne sait pas quoi faire. On est toujours là, il faut quand même sensibiliser un max. On est là pour essayer de donner cette prise de conscience aux gens qui ne se rendent pas compte, qui pensent qu'en fait, on ne peut pas apporter quelque chose, on ne peut pas apporter notre pierre à l'édifice, alors qu'en fait, si, tout le monde peut apporter quelque chose. Et on est là pour cette prise de conscience et on sera là jusqu'au bout.
Voilà, une manifestante parisienne, membre du mouvement des jeunes pour le climat, au micro de Juliette Jay. Le mouvement de la jeune suédoise Greta Thunberg avait appelé à manifester devant toutes les ambassades et consulats du Brésil dans le monde. Ils ont été des centaines à manifester également à Londres, Amsterdam ou encore Dublin. C'est aussi cette veille du G7 qu'a choisi Emmanuel Macron pour cibler très clairement son homologue brésilien. Après avoir demandé que la situation en Amazonie soit inscrite à l'ordre du jour du sommet, le chef de l'État a pris les devants en annonçant que, compte tenu de l'attitude du Brésil et du président Bolsonaro, qui a décidé de ne pas respecter ses engagements climatiques, la France, dans ces conditions, s'oppose à l'accord Mercosur en l'état, ce qu'il avait déjà laissé entendre fin juin après la signature du traité entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, Brésil et Argentine notamment. La France avait conditionné son accord au respect de certains engagements environnementaux sur lesquels le président brésilien se serait donc assis. D'où cette annonce d'Emmanuel Macron. Bertrand Galichet, vous êtes à Biarritz pour ce G7 qui s'ouvrira demain. Alors l'annonce a évidemment été saluée par les ONG. C'est tout bénéfice pour le président français qui se donne le beau rôle dans un timing international parfait.
Oui, mais l'Élysée se défend de toute décision opportuniste. Il n'y avait pas de plan pour chercher une porte de sortie à cet accord de libre-échange, dit-on ici à quelques heures de l'ouverture du G7. Pourtant, ce qui avait été conclu en juin dernier entre le Mercosur et l'Union européenne était bien au cœur d'une controverse. L'accord, vu par les écologistes comme destructeur de l'environnement au profit de l'industrie agroalimentaire, pouvait effectivement à terme embarrasser Emmanuel Macron. Et quand la France critique l'inaction de Jair Bolsonaro face au changement climatique, elle ne peut pas faire comme si c'était une découverte. En revanche, Paris est plus légitime en dénonçant l'absence de réaction du président brésilien pour tenter de combattre les incendies en Amazonie qui ont pris une ampleur catastrophique.
Alors tout cela, Bertrand, change un peu l'ordre du jour de ce G7 qui va devoir parler environnement.
Oui, c'est un sujet qui va nettement remonter dans l'agenda du sommet, alors qu'il était plutôt prévu à minima pour éviter un clash avec Donald Trump. On sait, le président américain réfractaire à toute discussion sur le changement climatique. L'Élysée annonce que les Sherpas, les conseillers diplomatiques des chefs d'État et de gouvernement, sont déjà au travail afin d'aboutir à des initiatives concrètes qui pourraient se matérialiser ici au G7, car c'est désormais une priorité. La présidence française fait savoir que les incendies en Amazonie feront partie des principaux sujets du dîner d'ouverture demain soir entre chefs d'État et de gouvernement. Ce sera aussi le thème majeur de la réunion environnement des participants au sommet lundi.
Bertrand Galichet à Biarritz. Alors cette opposition d'Emmanuel Macron au Mercosur, c'est une première étape essentielle pour Nicolas Hulot, qui appelle à aller plus loin, jusqu'à des sanctions commerciales et notamment l'interdiction de produits agricoles brésiliens. Une bonne décision aussi pour Mathieu Orphelin, l'ex-député de La République En Marche, qui veut espérer un soutien en ce sens de tous les Européens. À l'inverse, la France insoumise ironise en écrivant dans un communiqué que seul Macron pouvait imaginer que Bolsonaro était écologiste. Pour l'eurodéputé Manon Aubry, la ficelle est un peu grosse pour nous faire oublier, dit-elle, qu'il a fait voter le CETA avec le Canada. Et c'est ce que pensent aussi les agriculteurs de la FNSEA qui saluent malgré tout cette décision de sagesse. Au Brésil, face à cette forte pression qui monte un peu partout dans le monde, le président Bolsonaro, après avoir dénoncé la mentalité colonialiste du président Macron, dit étudier aujourd'hui la possibilité d'envoyer l'armée en soutien aux pompiers d'Amazonie. Un président brésilien qui est donc directement mis en cause dans le déclenchement inédit des incendies de ces derniers jours. Sa politique, ajoutée bien sûr au réchauffement climatique, n'aurait fait qu'aggraver les choses. Alors, de quoi parle-t-on précisément à Sao Paulo, Juliette Onsard?
Les images satellites des incendies qui ravagent l'Amazonie tournent en boucle sur les télévisions brésiliennes. Le président d'extrême droite n'a pas du tout apprécié recevoir de leçons de la part des chefs d'État étrangers quant à sa gestion de la catastrophe. Le président Macron, qui vient de revenir sur le traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, est d'après Bolsonaro un menteur avec une mentalité colonialiste et un discours sensationnaliste. Climato-sceptique et ouvertement favorable au lobby de l'agro-business, Bolsonaro est bel et bien le principal responsable de l'augmentation de la déforestation inédite depuis son arrivée au pouvoir en janvier, avec comme conséquence 83% d'augmentation des feux de forêt par rapport à 2018. Mais face aux pressions internationales, Bolsonaro reproche aux ONG d'être à l'origine de ces incendies, une accusation sans preuve qui a suscité la colère ici au Brésil. Des mobilisations sont donc prévues contre le président ce soir et ce week-end dans plusieurs grandes villes du pays. À São Paulo, Juliette Onsa, France Inter.
En marge du G7, le chef de l'État a également reçu ce matin le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, pour essayer de sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire, un accord dont les États-Unis, on le sait, se sont retirés. Les propositions de la France vont dans la bonne direction, a simplement commenté à la sortie Mohammad Javad Zarif en ajoutant qu'il reste toutefois beaucoup de chemin. Et puis c'était une journée décidément chargée à l'Élysée où le chef de l'État recevait également une trentaine de chefs d'entreprise, dirigeants de groupes travaillant à l'international et qui promettent de travailler à une mondialisation plus juste et plus équitable. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement, Frédéric Saïs?
Alors ça veut dire des grands groupes qui veulent montrer leur prise de conscience dans cette salle des fêtes de l'Élysée. Cela donne de nombreuses propositions, certaines très concrètes. Bannir les composants chimiques les plus nocifs dans les climatiseurs, par exemple. D'autres sont moins immédiates. François-Henri Pinault, le président du groupe Kering, a mobilisé une trentaine d'entreprises de l'habillement.
C'est la suppression complète des plastiques à usage unique. Mais ça sera avant 2030. En tout cas, on va essayer.
On va essayer, mais ce sont des engagements sans contrainte. Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique, veut croire que ces promesses seront honorées.
L'alternative, c'est quoi? C'est pas d'engagement? Je crois qu'on peut pas se permettre ça. La situation actuelle le montre. Et parfois, attendre que les États agissent et prennent des décisions, eh bien, ça suppose de retarder les décisions.
Et le président Macron, avant de décoller pour Biarritz précisément, a d'ailleurs exhorté ses chefs d'entreprise à tenir leurs engagements au nom de la montée des populismes.
Si nous, on ne change pas, si on ne change pas en profondeur le cœur du modèle, d'abord on perd en vrai, mais ceux qui gagnent, ce sont les extrêmes. Et c'est en train de se passer.
Et l'Élysée promet tout de même des réunions régulières de suivi des promesses, sans calendrier précis pour l'instant.
Frédéric Saïs à l'Élysée avec Nicolas Mathias. À ce chapitre économique, la réponse du berger chinois à la bergère américaine après la décision de Washington de taxer 300 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires. Pékin réplique en annonçant la taxation de 75 milliards de dollars de produits américains, soit un peu plus de 5000 articles, dont le soja, le pétrole et les petits avions sur lesquels les droits de douane seront augmentés de 5 à 10%. La réponse, par Twitter évidemment, du président Trump n'a pas traîné. Il appelle les entreprises américaines à trouver une alternative à leurs usines en Chine en rapatriant par exemple leur production à la maison. Ils auront dû patienter 10 jours, mais la solution a fini par arriver. Les 356 migrants de l'Ocean Viking vont pouvoir être débarqués à Malte dans les prochaines heures ou les prochains jours, sans que le navire accoste. Ils seront transférés sur les bateaux des gardes-côtes avant d'être redirigés vers les pays d'accueil, 6 pays européens dont la France, qui prendra en charge 150 d'entre eux. Un immense soulagement, on imagine, pour tous ces candidats à l'immigration venus et revenus de loin. Le soulagement également pour ceux qui les ont accueillis, même s'ils sont fatigués de ce même scénario qui toujours se répète. Thierry Alafort, le directeur général de Médecins Sans Frontières, avec Delphine Evenou.
La situation devenait très précaire, très tendue. On perd, nous, beaucoup de temps, un temps qui nous empêche de faire d'autres sauvetages. Et à mon avis, il faudrait arriver à trouver une sortie de ces situations qui sont assez ridicules, hein, où l'accostage de quelques centaines de naufragés ressemble plutôt à, aujourd'hui, à une tragicomédie médiatico-politique qu'on pourrait décliner en trois actes. Nous, on fait des ronds dans l'eau avec nos bateaux, avec des situations humaines assez catastrophiques. On a des États qui bombent le torse en faisant de leur refus un enjeu électoral. Puis, quand il n'y a plus de solution, on trouve des petits arrangements entre États, on solde le problème, mais pour qu'on retombe après dans les mêmes difficultés. Donc, il faudrait trouver des lieux de désembarquement permanents, hein, donc en Italie, à Malte. On peut aussi imaginer le débarquement en Corse. En tous les cas, nous, on serait ravis de voir que ça ne soit plus ces tragicomédies, qu'on puisse travailler correctement, que ça soit même plus médiatisé, parce que on aurait réglé le problème. On parle de quelques centaines de personnes à chaque fois. On pourrait trouver des solutions pérennes.
Bonne nouvelle également pour les migrants de l'Open Arms, finalement hébergés au centre d'accueil de Lampedusa. Un bateau militaire espagnol est arrivé sur zone pour récupérer ceux qui partent en Espagne. 40 d'entre eux seront accueillis en France. En politique, il est depuis les européennes la tête d'affiche incontestée des Verts. Enfin, incontestée, c'est vite dit, personne ne fait jamais l'unanimité à Europe Écologie Les Verts. Pas même Yannick Jadot, dont la stratégie politique fait débat dans le parti. L'homme des 13,5% aux européennes ne veut plus se fier aux seules étiquettes. Il renvoie aux oubliettes les vieux clivages en refusant toute alliance d'appareil à gauche. Et c'est ce dont il est venu s'expliquer, ce dont il s'explique en ce moment même, je crois, à l'Université d'été des Verts réunie à Toulouse, Laurence Perron.
Oui, parfaitement. Alors, il vient juste de terminer, hein, Yannick Jadot, qui est arrivé en surplombant de sa haute taille les militants réunis en plein air et qui prend sa plus grosse voix pour tonner.
3 055 023 voix. On a plutôt intérêt à être à la hauteur de nos résultats aux élections européennes.
Et de plaider aussitôt pour un dépassement du mouvement écologiste, même s'il ne le prononce pas, son fameux ni droite ni gauche qui lui sert de mantra, sous-tend son propos.
Ces électeurs, il faut qu'on les entende. Et même, je vais vous dire, il faut qu'on les aime. Apprenons à chérir nos électeurs pour qu'ils soient de plus en plus nombreux. Ils ont des engagements, ils ont des opinions qui parfois ne sont pas les nôtres. Et alors, devons-nous les juger? Ils nous demandent de changer le monde et nous voudrions leur demander leur pédigré?
Il le réaffirme, pourtant il est un homme de gauche et il se lance dans un plaidoyer anti-Macron. Les migrants, l'accueil des migrants, un plaidoyer pour ceux qui les accueillent, comme à Grande-Synthe, le maire écolo Damien Carême. Il dénonce l'inaction du gouvernement face aux algues vertes, l'exploitation aurifère en Guyane, l'abattage des coulisses cendriques, cadeaux aux chasseurs. Non, monsieur Macron, assène-t-il très théâtral, l'assistance siffle. Le maire Cossour, il ne suffit pas de bouder Bolsonaro, il faut aussi un boycott. Il poursuit enfin son entreprise de conviction face aux critiques en interne qui contestent sa volonté de vouloir rassembler à n'importe quel prix et lui répond non, combat idéologique, nous sommes seuls l'écologie a les pieds sur terre. Applaudissements nourris en attendant le congrès de novembre où là, les couteaux seront sans doute à nouveau de sortie.
Laurence Perron à Toulouse avec Marc Garvenès. C'était attendu, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une information judiciaire sur l'affaire Epstein, enquête pour viol et agression sexuelle. Deux semaines après le suicide en prison du financier américain, de nouveaux éléments renforcent l'hypothèse de faits commis en France ou concernant de jeunes françaises. D'autant que l'un de ses rabatteurs aurait été le fondateur d'une agence de mannequins, le français Jean-Luc Brunel, dont le nom était apparu dès la première enquête en 2007. Les investigations ont été confiées à l'Office central de répression des violences faites aux personnes. Un braquage spectaculaire dans une bijouterie du 1er arrondissement de Paris aux aurores ce matin. Cambriolage serait plus exact. C'est d'abord une Mercedes qui a fracassé la vitrine. Les malfaiteurs prenant la fuite ensuite à bord d'une Porsche Cayenne, laquelle a été retrouvée incendiée à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Emmanuel Leclerc, on parle de 50 000 euros de bijoux volés.
Oui, dans la longue série d'attaques de bijouterie dans le très chic quartier du Palais Royal à Paris ces dernières années, à deux pas de la place Vendôme, ce n'était pas cette fois effectivement un braquage à main armée car il n'y avait personne sur place à 4h35 précisément du matin. Mais par contre, les vidéos surveillance montrent une équipe qui débarque à bord de véhicules de luxe. Le premier, une grosse berline Mercedes, sert de voiture bélier. En quelques minutes seulement, les cambrioleurs se sont emparés des collections de bijoux dans les présentoirs à coups de masse, des outils qu'ils ont laissés d'ailleurs sur place. Ils ont également aspergé la voiture bélier avec de la javel avant de repartir à bord cette fois-ci d'une Porsche Cayenne toute neuve, direction la Seine-Saint-Denis. Le pilote n'a visiblement pas eu trop de mal à se débarrasser d'une voiture de police qu'il l'a prise un moment en chasse, pas la même cylindrée ou peut-être un ordre de ne pas prendre de risques inutiles. Ce sera maintenant aux enquêteurs de la police judiciaire parisienne de tenter de retrouver les auteurs et un butin estimé effectivement à près de 50 000 euros. À noter que les malfaiteurs n'ont pas hésité à brûler ensuite leur luxueux 4x4 dans la cité des 4000 à la Courneuve. À 5h10, ils ont disparu des radars, 35 minutes donc au total, cambriolage compris.
Ça va vite les voitures de luxe. En tout cas, deux voitures de luxe abandonnées pour 50 000 euros. Drôle de calcul. Allez, c'est l'événement ce soir au festival Rock en Seine. L'affiche de cette édition 2019, The Cure, l'un des groupes mythiques des années 80 qui vient fêter ses 40 ans de carrière au domaine de Saint-Cloud pour une date unique. Énorme soirée donc pour les fans qui pourront aussi ce week-end, les autres aussi, ceux qui n'ont pas eu de place, profiter d'une expo photo consacrée à Robert Smith et à son groupe, dont le photographe fétiche sera présent bien sûr ce soir, Mathieu Culeron.
Ça fait 40 ans qu'ils font de la musique et 39 ans que je les photographie.
Cette année à Rock en Seine, le chanteur de The Cure, Robert Smith, a convoqué Richard Bellia pour un énième portrait. Une histoire de confiance qui dure depuis les débuts du photographe français qui expose en ce moment ses clichés du groupe chez Agnès B à Paris.
Ils ont 3-4 ans de plus que moi ces gens-là. J'ai adoré leur musique instantanément. Ce qui m'a happé avec cette musique-là, c'est qu'elle ressemblait à la musique de personne. Même la discographie, comment elle va à droite, puis à gauche, puis à droite. Vraiment, je sens une grande liberté.
Sur le site de Rock en Seine, l'autre fan des Cure n'est autre que l'autre tête d'affiche de la grande scène, Jeanne Haddad, qui a eu une surprise en voyant le nom de ses voisins de loge.
Il y a marqué The Cure, et après il y a marqué Jeanne Haddad. Ça fait partie des grosses, grosses excitations de cette année. D'autant que quand on m'a raconté qu'en plus Robert Smith écoutait et checkait un peu ce qui se passait en première partie de ses concerts, la joie était d'autant plus grande qu'il ait accepté qu'on ouvre pour lui. Ouais.
Et toi, tu iras voir ?
Ah bah... Oui, bien sûr, ouais, carrément. Tout le concert en entier, du début jusqu'à la fin.
Jeanne Haddad en concert ce soir à 18h45, juste avant The Cure, qui seront présents, eux, à 21h, sur la grande scène.
Voilà, le concert des Cure à déguster demain soir sur France Inter à partir de 21h. La météo. Bonsoir Élodie Calac avec un bon fond musical, hein, sympa. Beau et chaud demain.
Ah oui, beaucoup de soleil. Alors juste quelques nuages élevés de temps en temps sur le nord-ouest, le nord de la Seine, le bassin parisien, mais vraiment rien de bien méchant. L'après-midi, on trouvera des nuages bas sur la pointe bretonne, sur le Pays Basque, qui limiteront un petit peu la hausse des températures. Des Alpes vers la Provence, la Côte d'Azur et la Corse, des averses et des orages possibles. Pour les températures, 11 à 18 degrés. Le matin jusqu'à 23 pour le sud-est et puis l'après-midi, 27 degrés à Brest sous les nuages bas justement, 29 à Biarritz et puis ailleurs on dépassera les 30 degrés avec 31 à Paris, à Lyon, 32 degrés à Saint-Brieuc et Marseille, 34 au Mans, à Bourges, à Montélimar, 35 pour Nantes et Toulouse et 36 degrés du côté de Bordeaux.
Et ce sera la même chose dimanche.
Et toujours du soleil, en effet, un voile nuageux sur la façade atlantique cette fois-ci. Les températures monteront encore sur le centre et sur l'est, 32 degrés à Nancy, à Lyon, 34 à Paris, 35 à Bourges. Bourges, à Nevers et puis on respirera mieux à l'ouest avec 31 degrés à Bordeaux, 29 à Nantes et 23 à Brest.